Eh bien, la vie chrétienne est une marche en avant, autant que possible pour chacun d'entre nous. Et je parle comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans les garages. Dans la boîte de vitesse de Dieu, il n'est pas prévu une marche arrière. La marche arrière, c'est nous qui l'avons installée dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne est aussi comparée à une course. Paul nous compare à des athlètes parcourant une piste d'athlétisme. Notre objectif à nous chrétiens, c'est la ligne d'arrivée. Et de franchir cette ligne d'arrivée en tant que vainqueur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission « L'école des fans », Jacques Martin disait « Tout le monde a gagné ». Et dans la vie chrétienne, si nous franchissons la ligne en vainqueur, nous sommes tous des vainqueurs. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Notre marche en avant nous est imposée. Notre marche en avant nous est imposée. Nous devons regarder vers le but afin de terminer en vainqueur. Un enfant de Dieu doit avoir les yeux rivés vers l'avant car, frères et sœurs, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. Dieu nous appelle tous à le suivre. C'est le mot d'ordre qu'il nous donne quand il nous appelle. Il nous dit, toi, suis-moi. C'est ce qu'il nous a dit quand nous nous sommes convertis. Nous disons, marche derrière moi et surtout ne te retourne pas. Et je pense que le plus dur, frères et sœurs, c'est de ne pas se retourner, de regarder derrière nous. Nous voulons prendre un texte qui servira de base pour cette méditation. Il se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous lirons quelques versets à partir du verset 12. Philippiens 3, à partir du verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, derrière moi, pardon, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Dans une autre version, il nous est dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous affirme qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Et je pense que, ici, il n'y a encore personne qui a atteint la perfection, mais il fait une chose, il court afin de gagner le prix. Il n'a pas encore gagné, et nous n'avons pas encore gagné, car il n'est pas encore arrivé, et jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés. Mais il appuie sur quelque chose d'important pour notre vie spirituelle que nous devons appliquer absolument si nous voulons vivre une vie chrétienne remplie de victoire. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Il oublie ce qui est derrière lui. Et ça doit nous interpeller. Ça m'a interpellé. Oublier ce que nous avons abandonné avant de rencontrer le Christ, avant notre conversion. Oublier notre vieille nature. Oublier nos vieilles habitudes. Oublier nos vices qui nous tenaillaient. Oublier tout ce que Dieu nous a délivré, que nous avons parfois trop tendance à regretter. Et nous regardons malheureusement trop souvent en arrière, parfois avec un pincement de regret, pincement au cœur. Oublions ce qui est en arrière, c'est ce que Dieu nous demande de faire Mes frères et sœurs, reconnaissons-le qu'il est bien souvent difficile d'oublier ce que nous avons laissé en arrière. Et pourtant, c'est un ordre de Jésus. Toi, suis-moi et laisse ta vie d'autrefois à l'endroit où je t'ai appelé. Et je vais vous donner quelques exemples de personnes qui ont dû suivre Jésus, oublier et laisser leur ancienne vie derrière lui, derrière eux. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18, il nous est dit, un jour qu'il marchait, donc Jésus, au bord du lac de Galilée, lui deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent tout, aussitôt, leur filet, et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus appelle des hommes qui ont une situation, un travail qui leur permettait de vivre et bien sûr de nourrir leur famille. Jésus le sait cela. Mais il teste ces hommes, leur disant, voulez-vous autre chose dans votre vie? Voulez-vous vivre autre chose? Eh bien, je vous appelle, dit-il. Laissez tout et suivez-moi. Il y a un autre idéal pour vous. Une meilleure vie vous attend. Et nous voyons qu'ils ne se sont pas posé beaucoup de questions. Ils ont laissé tout et ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ont commencé à courir avec Jésus. Pierre dira à Jésus un peu plus tard dans Matthieu chapitre 19, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Frères et sœurs, c'est vrai qu'il n'est pas question pour chacun d'entre nous d'abandonner notre métier, quoique nous sommes pratiquement tous pensionnés, donc il n'y a pas de difficulté, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne demande pas cela à tout le monde, de quitter sa situation, son travail, pour le suivre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il est vrai que certains ont quitté tout, et ils se sont mis à suivre Jésus à plein temps. Donc il ne faut pas se méprendre dans ce que je dis, il n'est pas dit qu'il faut quitter sa maison, vendre tout ce qu'on a pour suivre Jésus. Il y a des exceptions, bien sûr, mais ce n'est pas la règle. Mais nous devons tous abandonner quelque chose pour suivre Jésus. Nous devons tous abandonner quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie, qui nous retient, qui nous empêche peut-être à suivre le Christ à 100%. Matthieu chapitre 9, il y a un autre passage où il appelle quelqu'un, Jésus s'en alla et en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Matthieu, comme vous le savez, est un percepteur d'impôts à la solde des Romains. Et son métier n'est certes pas à la gloire de Dieu, collaborer avec l'ennemi. Et Jésus le sait et il appelle cet homme. Et Matthieu se lève. Matthieu se lève et quitte sa situation. Et nous voyons qu'il n'a aucun regret. Il ne regarde pas en arrière, mais il oublie sa vie passée. Il change de vie. Et il commence à courir en avant, à courir avec Jésus. Et non seulement il se lève et suit Jésus, mais pour le remercier, pour prouver vraiment qu'il ne regarde pas en arrière, il veut fêter cela par un grand festin. Invitant ses amis à faire de découvrir le Christ aux autres, il a vraiment oublié ce qui était derrière lui. Oui, c'est cela, répondre à l'appel de Dieu, se lever et courir sans se retourner. Malheureusement, frères et sœurs, il n'en est pas toujours ainsi. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes parfois pris de nostalgie de notre passé. Il y a parfois un pincement au cœur pour ce que nous avons laissé derrière nous. Et je dois dire, mal nous en prend si nous nous retournons pour regarder en arrière, pour regarder ce que nous avons laissé, tout ce que nous avons laissé de côté pour suivre Dieu. Et si nous faisons cela, nous nous exposons à de graves conséquences. pour notre vie spirituelle et notre vie tout court. Nous avons un exemple terrible dans la parole de Dieu d'une personne qui s'est retournée afin de voir ce qu'elle a quitté. Et à cette personne-là, ça lui a coûté la vie. Je pense que vous avez compris, il s'agit de la femme de Lot. Et nous lisons dans la Genèse chapitre 19, son histoire. Chapitre 19, verset 17. Une fois hors de la ville, donc les anges étaient là pour conduire Lot à se sauver, parce que Dieu avait prévu de exterminer Sodome. Il dit à Lot, sauve-toi, il va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Au moment où le soleil se levait, Lot arriva à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle. Elle fut changée en une statue de sel. Celui qui n'aime pas trop sa femme, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce que je vous conseille. Lot était tout juste, était juste aux yeux de Dieu. Et Dieu ne voulait pas faire périr Lot avec le reste de la population de Sodome. Dieu veut lui faire quitter la ville afin de le sauver, lui et sa famille. Et nous verrons qu'il n'y a que lui, sa femme et ses filles qui l'ont écouté. Ses gendres n'ont pas voulu écouter Lot. Mais un ordre leur fut donné, interdiction de se retourner pendant leur fuite. Car en se retournant, ils signeraient leur arrêt de mort. Mais la femme de Lot, les femmes, ne peut s'empêcher de se retourner. Et à l'instant, elle est frappée par la malédiction prononcée par Dieu. Elle est transformée en une statue de sel. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu regardé en arrière, femme de Lot? Pourquoi as-tu désobéi au commandement de Dieu? Pourquoi regarder en arrière et regarder ce que tu as quitté? Peut-être qu'elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle quittait. Elle vivait peut-être dans un certain confort. Elle vivait sûrement dans le compromis parce que, quelque part, elle regrettait de partir parce qu'elle se retournait pour voir une dernière fois ce qu'elle quittait. Elle avait peut-être dur de quitter sa vie confortable, entourée bien sûr d'amis peu recommandables parce que, nous savons que c'était le péché qui régnait dans cette contrée. Mais elle préférait peut-être cette vie qu'elle vivait plutôt que celle que Dieu lui proposait. Oui, Dieu nous propose peut-être, sûrement, j'ai encore lu cette semaine, ce chemin étroit n'est pas un chemin facile que nous devons emprunter, c'est pas le chemin de la facilité que Dieu nous promet, il ne nous a jamais promis une vie facile, mais il nous a promis qu'il serait avec nous chaque jour, il nous a promis sa présence, Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. C'est vrai que c'est cette vie que Lot allait avoir, elle serait peut-être une vie plus austère, plus difficile. Mais une vie où Dieu aurait été le centre, parce que Dieu l'a conduit à sortir. Dieu était avec lui. Ne regrette pas ce que tu dois quitter, nous dit Dieu aujourd'hui. Ne regrette pas. Ne regrettons pas le choix que nous avons fait. Le jour où nous nous sommes convertis. Pensons au peuple d'Israël regrettant l'Égypte. Nous l'avons déjà parlé il y a quelque temps d'Israël, qui regrettait les bons moments passés en Égypte sous l'esclavage du péché et sous le dur labeur. Et quelle fin tragique cette génération sortant d'Égypte a eue. Toutes ces générations ont disparu dans le désert, sauf deux personnes, Josué et Caleb. Car ils n'ont pas pu oublier ce qu'ils ont quitté. Et leur fin était tragique. Ils ont regardé en arrière. Et Dieu n'a pas pu bénir ce peuple. Parce qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Et Jésus nous donne cet avertissement dans l'Évangile à propos de la femme de Lot. Il dit dans Luc 17, « Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. » Et ce matin, Jésus nous dit la même chose. « Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, ce qui est arrivé à la femme de Lot. Rappelle-toi qu'elle a regretté ce qu'elle quittait. Elle ne pouvait pas oublier. Et la bénédiction n'a pas pu être sur elle. » Oui, Jésus appuie cela et nous demande de nous souvenir de cet incident dramatique. Suivre Jésus, ne pas regarder en arrière, est difficile pour certains. Pensons à ce jeune homme riche. Ce jeune homme semblait être un exemple de religiosité. Quand Jésus lui parle, il dit « Connais-tu les commandements ?» Il pouvait tous les réciter par cœur, car il avait appliqué cela toute sa vie. Il connaissait les Écritures. Jésus le trouvait plutôt sympathique. Jésus lui dit, puisqu'il semble que tu veux me suivre, voici les conditions pour me suivre. Marc chapitre 10, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Là, Jésus, tu m'en demandes trop. Hein. Je veux bien te suivre, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer de mon argent. Je ne peux pas me séparer de mon train de vie luxueux. Seigneur, ça, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas oublier ma fortune. Qu'est-ce qui nous retient ? Pourquoi je ne peux pas suivre Jésus ? Cette question que je nous pose ce matin, que je me pose à moi-même, j'ai toujours dit, quand je dois prêcher, mais je dois d'abord me prêcher à moi avant de vous le dire. Et je me suis dit, suivons-nous vraiment Jésus de près ? Parce que nous avons laissé vraiment tout ce qui nous encombrait derrière nous. Avons-nous laissé tout ce qui nous encombrait derrière nous? Avons-nous oublié tout cela? Ou le suivons-nous de loin? Peur de nous fâcher avec certains membres de notre famille, avec les amis. Un peu de Jésus et beaucoup de ce qu'il devrait rester normalement derrière nous. Voilà ce que Dieu nous pose comme question ce matin. Nous avons un autre exemple, c'est pour ça que j'ai voulu illustrer cela par des exemples de la parole de Dieu, pour ne pas vous donner des conseils qui viendraient de moi, mais ces conseils sont tirés de la parole de Dieu. Dieu avait choisi aussi Élisée afin de remplacer Élie comme prophète en Israël. Et quand le prophète Élie appelle Élisée, Élisée est quand même un riche propriétaire terrien. Il travaille dans les champs, il y a 12 paires de bœufs qui l'entourent, il a plusieurs ouvriers, c'est une famille certainement aisée. Et Dieu l'appelle à le suivre. Dieu l'appelle à le suivre, il a quitté sa vie de riche fermier. Veux-tu continuer à vivre comme riche propriétaire terrien ou veux-tu répondre à l'appel de Dieu et laisser tout et abandonner tout et suivre le chemin qu'Élie a poursuivi, un chemin difficile, un chemin rocailleux, un chemin très dur à vivre, mais un chemin exaltant avec la présence de Dieu. Que feras-tu, Élisée ? Vas-tu répondre à l'appel de Dieu et quitter tout ou poursuivre ta vie ? Trouvons ça dans 1 Roi chapitre 19. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Élie avertit Élisée. Dieu t'a appelé. Oui, va embrasser ta famille, je te le permets. Mais tu as reçu un appel. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais le choix que tu dois prendre. Tu sais, si tu veux continuer ta vie, pépère, avec un bon salaire derrière, ou alors si tu veux abandonner tout et suivre Dieu. Élisée a compris l'appel de Dieu. Il a tellement bien compris qu'il sacrifie une paire de bœufs. Et je crois qu'à l'époque, ça devait valoir une petite fortune. Il n'a pas peur de sacrifier une paire de bœufs ainsi que l'attelage. Il offre un repas de reconnaissance à sa famille, puis part avec Élie. Élisée oublie qu'il avait de la richesse grâce à son travail. Il oublie toute cette vie pour servir Dieu. Et quel ministère béni il aura, avec une puissance double de celle qu'Élie avait. Élisée a compris qu'il fallait oublier ce qui était en arrière. Voyez encore un autre exemple dans la parole de Dieu sur la façon de répondre à l'appel de Dieu. Luc chapitre 9, verset 61, un autre lui dit encore « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit « Celui qui regarde en arrière, derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Regardez en arrière. Regardez à sa famille. Regardez à ce que l'on va laisser. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne pour le règne de Dieu si tu n'oublies pas ce que tu vas laisser. Regardez en arrière à sa famille. Jésus ne nous demande pas de couper avec notre famille. Hein. Entendons-nous bien. Comme dans certaines sectes, si vous ne faites pas partie de cette secte, vous ne pouvez plus avoir des rapports avec votre famille. Non, ce n'est pas ça. Il veut nous dire que regarder à sa famille, parfois ça peut être un frein pour notre vie. Parce que là, cette famille peut nous donner un tas de conseils, soi-disant des bons conseils, attention, ne t'engage pas, fais attention qu'on te pique tout ton argent, fais attention où tu mets les pieds. Bien sûr, nous devons être prudents. Et certains réfléchiraient, ils ne veulent pas aller plus loin avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut nous arrêter, frères et sœurs, ce matin? Pourquoi ne pas oublier notre passé? Pourquoi ne pas oublier ce qui est derrière nous? Peut-être ce qui est derrière nous nous freine, nous empêche de nous engager. L'apôtre Paul nous dit, oublions ce qui est en arrière. Mais Seigneur, je ne peux pas oublier mon passé. Seigneur, ce passé est trop lourd. Je ne peux pas l'oublier. Je ne suis pas digne de toi. Ce que j'ai vécu m'obsède. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il est accroché à moi. Et Jésus nous dit de déposer nos fardeaux. Jésus nous dit de déposer notre passé à ses pieds, de l'oublier derrière nous. Et lui nous donnera du repos. Si nous vivons constamment avec notre passé, eh bien nous ne pouvons pas avancer dans notre vie spirituelle. Car nous sommes paralysés par les fantômes du passé. Et ça devient une obsession à la fin. Et cela nous hante jour et nuit, nous empêchant d'avancer dans notre course. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Frères et sœurs, nous sommes une nouvelle création. Parce que nous sommes maintenant à Christ, nous appartenons à Christ. Les choses anciennes ont disparu, normalement. Nous ne devons plus les emporter avec nous. Nous ne devons plus les traîner comme un boulet. Tout est nouveau pour nous. Nous devons oublier ce qui est en arrière et aller de l'avant. Malheureusement, trop de chrétiens vivent avec le passé qu'ils traînent. Et ils sont malheureux dans leur marche avec Dieu. Ils sont malheureux dans leur marche avec Dieu, oui. L'on suit Jésus de loin en traînant ce lourd baluchon que nous aurions dû déposer. Oubliez ce qui est en arrière, nous dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, Jésus nous dit, toi, moi, toi, suis-moi. Et nous allons répondre, oui Seigneur, je veux te suivre, mais, il y a toujours ce mais. Il y a toujours ce mais qui se met en travers de notre route. Et Jésus de nous dire, oublie ce qui est en arrière. C'est le mot d'ordre de Dieu ce matin, oublie ce qui est en arrière. Oublie ce que tu quittes. Ne sois pas nostalgique. Pour ça, il y a Radio Nostalgie. Oublie ta vie passée. Oublie tes échecs. Oublie ce qui peut t'empêcher, qui peut te retenir de me suivre. Oublie ta peine. Oublie tes deuils. Oublie cette vie qui t'a malmené pendant des années. Dépose tout cela au pied de la croix. Frères et sœurs, ce matin, prenons ce texte et faisons le nôtre. Répétons avec l'apôtre Paul, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, regardez en avant et je cours. Nous devons courir ce matin. Même si nos jambes sont âgées, nous devons quand même courir en avant. Oublie ce qui est en arrière. C'est un ordre de Dieu. Et va en avant. Cours. Cours vers le but afin de remporter le prix. Cours et ne te retourne pas. Ce qui est devant toi est meilleur que ce que tu lâches. Lâche ce boulet qui te rend infirme, qui t'empêche de courir, qui t'empêche de courir vers le but. Jésus te dit, donne-moi ton fardeau et va de l'avant. Et surtout, oublie ce qui est en arrière. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te suivre ce matin, pas avec nos conditions, mais avec tes conditions. Tu nous dis d'oublier ce qui est en arrière et de nous porter vers ce qui est en avant. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous débarrasser de tous ces fardeaux. Et Seigneur, si ce matin, il y a quelqu'un encore ici qui traîne de lourds fardeaux, qui traîne cela comme un boulet, qui est épuisé par cela, Seigneur, qu'il puisse se décharger sur toi, qu'il puisse se décharger de tous ces fardeaux, les déposer à tes pieds et oublier ce qui est en arrière et regarder vers ce qui est en avant. Seigneur, aide-nous dans notre marche, aide-nous à courir afin de remporter le prix. Amen.